Si je devais décrire un vieux sage dans mes contes, je crois que je prendrais Pierre-André comme exemple. Il manquerait plus que la longue barbe blanche. Ce qui frappe en regardant Pierre-André, c'est sa posture. Il est droit. Quand je pense à lui, l'expression qui me vient à l'esprit, c'est « droit dans ses bottes ». Les bottes, il en a eu. Et elles ont souvent pataugé dans la boue, tant au propre qu'au figuré. Bienvenue dans « Il était une fois des sages », un podcast créé et réalisé par Marie Ray. La musique est composée par Pascal Rochat. Pierre-André est à la retraite, oui, enfin, plus ou moins. Quand je lui ai proposé notre rencontre, nous avons posé plusieurs dates et il m'a dit une chose qui m'a étonnée. Nous fixerons notre entretien dans les quelques jours précédents au vu de tes engagements surprises. Parole pleine de bon sens, parce qu'effectivement, j'ai dû caser des rendez-vous pas vraiment prévus. J'aime cette sagesse pratique des hommes qui ont les mains dans la terre et qui arrivent à l'appliquer aux aléas du 21e siècle, nous qui courons toujours après notre agenda et notre temps. Lorsque je lui demande de se présenter, voici ce qu'il me répond.
Un vieil homme, mais qui a bien vécu, et puis qui se réjouit, disons, de tout ce qui a pu être fait, parfois un peu inquiet de certaines choses qui auraient pu être faites autrement, mais tout est dans les mains du Seigneur, on ne peut pas changer le passé. Il est comme il est.
On ne sait jamais si c'est poli de demander l'âge à une personne âgée. Mais je me lance quand même.
Ah ben oui, je vais laisser faire le calcul. Je suis de 1938. Le 16 octobre, si jamais vous y pensez.
Il a déménagé plusieurs fois dans son enfance et sa vie de jeune adulte. Il est parti de Lausanne pour faire escale à Rolles, Gland, Nyon, Borret et pour finir à Crassier. Comme il dit, la bise l'a poussé de façon linéaire. Pierre-André est le troisième d'une fratrie de trois garçons. Il n'était pas aussi brillant scolairement parlant que ses frères. Il a montré tout au long de son enfance qu'en étant différent, on pouvait aussi faire quelque chose.
Alors j'ai deux frères aînés qui étaient brillants à l'école. Et moi, j'étais le petit dernier qui, comme disait un professeur, vous effacez la trace de vos frères.
Il a très vite appris que l'observation et profiter de l'expérience de ses frères était un vrai atout. Il a évité quelques tannées bien senties. Petit, il avait un drôle de surnom.
On m'appelait Fontaine, parce que je pleurais tout le temps. J'avais très peu de résistance à soit la douleur, soit la contrariété, etc. Jusqu'à ce que je prenne conscience que c'est quelque chose qui était négatif et qu'après, je pleure plus, quoi. Ça fait longtemps que je pleure plus. Ou que je peux plus pleurer, peut-être.
Pierre-André s'entendait très bien avec ses parents, mais il n'a pas eu une enfance facile.
C'est vrai, j'avais des parents qui étaient... qui ont eu une vie très simple, très difficile, parce que c'était vraiment cette période de l'entre-deux-guerres. Et ils ont eu une belle expérience professionnelle en France, mais ensuite, avec la crise de 1929, ils ont dû revenir en Suisse, et à partir de là, c'était galère. De cadre qu'ils étaient dans une entreprise de verrerie, il a fini ici, il est arrivé sur une manœuvre sur un chantier. Donc ensuite, il a vraiment galéré. Ils ont galéré jusqu'à ce qu'il puisse retrouver une place quand il était veuf, mon père. Et là, il a pu de nouveau trouver une place où il était comptable dans une entreprise. Il a pu de nouveau gagner sa côte correctement. Mais autrement, ils ont eu une vie difficile.
Sa famille avait très peu de moyens. Mais Pierre-André se souvient qu'il n'était pas vu comme pauvre. Sa maman se faisait un point d'honneur à toujours habiller correctement ses enfants. C'était une excellente couturière, mais ce n'était pas le métier qu'elle avait appris. Cette histoire de vêtements est devenue une petite entreprise familiale où tout le monde mettait la main à la pâte.
Mais disons, elle n'a pas pu le pratiquer. Elle a dû finir par gagner sa vie en faisant elle tricotait et cousait des vêtements, mais avec des machines. Elle avait une machine, ils avaient une grosse machine, ce qu'on appelle dubier, c'est un truc industriel. Et on a pratiqué aussi, nous, on faisait aussi ce genre de travail. On tricotait avec la machine, on faisait des tissus. Et ensuite, elle cousait, elle assemblait des gilets, des pullovers, etc. Et mon père les vendait dans toute le district, là, à Nyon. Et quand on faisait un truc, il fallait aller jusqu'au bout, parce que si on se trompait, etc., tout d'un coup, il y a tout qui tombait, il fallait recommencer. C'était... Là, mais tout le monde y a passé, les trois frangins, ils ont passé aussi à ça. Aussi à bobiner des fils. La laine, on la recevait en écheveau. On la mettait sur un tourniquet, là. Et puis avec une autre machine, on faisait des bobines avec. On bobinait du fil. Et là, quand on le bobinait, il fallait vraiment être très très précis pour le faire. Pas trop tirer, pas trop ça. Parce que quand ensuite mon père mettait la bobine sur le fil et que le fil cassait parce qu'il était mal bobiné, ça créait quelques tensions dans la famille.
Cette famille était la championne de la débrouille. N'ayant pas vraiment de moyens financiers, tout ce qu'il pouvait, il le fabriquait.
Non, mais c'est ça. Mais c'était une vie de famille qui était très, très autonome. On a été éduqués dans le sens qu'on ne pouvait pas... pas beaucoup acheter de choses, mais ce qu'on avait besoin, on pouvait le fabriquer, le faire soi-même. Alors ça allait aussi bien de la course de montagne, où on partait depuis Montreux pour monter jusqu'au Rocher de Nez en haut, puis redescendre, parce qu'on pouvait aller jusque-là en train, ou éventuellement après en voiture, mais d'habitude c'était le train. Ou bien si on voulait un football de table, on l'a fabriqué carrément, avec des petites pièces, etc., On fabriquait ce qu'on avait besoin. Et c'était intéressant parce qu'on a appris beaucoup de choses.
Pour ses parents, et plus particulièrement sa maman, les études étaient importantes. Elle aurait voulu en faire des études, mais sa famille n'avait pas les moyens non plus. Les frères de Pierre-André avaient suivi l'école obligatoire, le collège, la matu, l'université. Mais lui préférait s'amuser plutôt qu'étudier. Mais pour sa maman, il était hors de question que son fils termine comme les autres gamins du village.
Pour entrer au collège, ce qu'on appelait l'école secondaire à l'époque, ce qui était le collège à Nyon, le vieux collège à côté du temple, il fallait avoir une certaine moyenne que je n'avais pas. Alors ils m'ont mis, même qu'ils avaient très peu d'argent, dans une école privée, qui est juste à côté du collège, ça existe encore la maison. Et j'ai été pendant 6 mois là-bas à faire calcul, dictée. Et ça m'a permis d'entrer dans ce collège. Voilà. Et je finis correctement.
Petit, Pierre-André n'avait vraiment pas d'idée de métier. Il aurait bien voulu être chauffeur de train, parce qu'il les voyait passer pas loin de chez lui tous les jours. Puis, ayant habité avec un menuisier, il s'est intéressé au bois. Il a également fait un stage chez un charpentier. Mais la précision n'était pas son point fort, donc il s'est dit que ce n'était pas ce genre de métier qu'il lui fallait.
Alors finalement, j'avais un oncle qui était jardinier à Nyon et qui est dans une maison bourgeoise. Et puis c'est vrai que je trouvais assez intéressant l'atmosphère, etc., etc. Et mon père a toujours été passionné d'avoir du terrain, parce qu'il était fils de vigneron. Il avait dû abandonner le domaine pour ses frères. Et il a toujours rêvé d'avoir du terrain. Il a toujours eu un bout de terrain qu'il cultivait, faire du jardin, etc. Et il rêvait d'avoir un fils qui reprenne un terrain, quelque chose. Puis moi, comme je ne savais pas trop quoi faire, je ne voulais pas faire un apprentissage. Le travail, ça me fatigue assez rapidement. Alors j'ai pu faire une école. Comme mes frères étaient aussi dans des écoles. J'ai pu faire une école à Genève, l'école d'horticulture, qui existe encore d'ailleurs, mais qui m'a permis, disons, d'avoir quand même du travail pratique, mais en même temps aussi pas mal étudié de façon assez approfondie les différentes manches. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai... Là-bas, j'ai pas mal bossé, parce que je suis assez bien sorti, disons.
Suite à son école d'horticulture, il est parti en stage en Suisse allemande à Rorschach pendant 7 mois. Lorsqu'il est arrivé dans l'entreprise, il s'est vite rendu compte que l'apprenti de première année en savait bien plus que lui. Il était plus rapide et travaillait mieux. Ça a été comme une claque et Pierre-André a dit que ça a été une maturation forcée bien difficile mais utile. Et puis, il y a eu un deuxième séjour, toujours en Suisse allemande, mais cette fois-ci à Brook, où l'amour était au rendez-vous avec Katia.
Oh, mais ça, c'est un autre phénomène. Pas Katia, mais un phénomène de vie. Et là-bas, on s'est retrouvés, alors, une quarantaine d'employés, et il y avait 2 apprentis, et 2, il y avait peut-être 3, 4 filles là-bas. Et c'est là que vraiment, on a travaillé ensemble, et j'ai été impressionné par le calme de cette personne, et aussi un peu le mystère. Elle était très mystérieuse, elle est toujours très mystérieuse. Et évidemment, on habitait à peu près dans le même quartier, parce qu'on descendait le soir, et puis on mangeait en équipe dans cette entreprise, à midi et le soir. Et finalement, on travaillait ensemble, etc. Et les relations se sont gentiment établies. Et ça a été... c'était le début d'une histoire. Mais c'est clair qu'un employé qui fréquente une apprentie, c'était assez mal vu. Quand c'était un Welsh en plus, c'était un peu difficile.
Pour pouvoir passer du temps ensemble, ils partaient marcher le soir sur les bords de l'Aar. 10 kilomètres aller, 10 kilomètres retour, et tout ça sans jamais se tenir la main. En tout bien, tout honneur. Tout le monde était au courant, sauf leurs familles respectives. Un jour du mois de décembre, Katia a invité Pierre-André à passer Noël dans sa famille. Elle avait parlé de sa relation à sa mère en espérant secrètement qu'elle communiquerait l'information à son père, ce que la maman n'a pas fait. Elle savait bien que son mari, qui était architecte, ne sauterait pas de joie en apprenant que sa fille fréquentait, comme le dit Pierre-André, un pauvre gars qui plantait des légumes et arrachait des mauvaises herbes.
Et pour l'anecdote, c'était très drôle parce que à Noël, c'était vraiment au tout début, j'ai dit, je vais trouver un... Ah ben, viens à Noël chez moi. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en arrivant dans sa famille, elle n'avait pas osé dire à son père que j'arrivais. Et je me suis retrouvé dans la cuisine, qui êtes-vous ? Et c'est là que le fait de ne pas être impressionné par autrui m'a rendu un grand service. Parce que ça ne m'a pas... Il faut dire que je l'ai appris après, qu'elle n'avait pas dit à son père. Sa mère était au courant, mais pas à son père.
Ils se sont donc promis l'un à l'autre. Et Pierre-André est rentré sur le canton de Vaud pendant que sa future femme venait en Suisse romande pour apprendre le français et faire ensuite l'école de Marcelin. C'est à ce moment-là que toutes les portes des possibles, enfin quelques-unes, se sont ouvertes. Mais Pierre-André a tout d'un coup eu l'occasion d'acheter un terrain de 3 hectares à un cousin lointain. Il n'avait dans sa poche que 185 francs, ce qui correspondait à un salaire d'une 15 jours. Le vendeur s'est alors contenté du seul montant des hypothèques proposées par la banque, soit environ 2/3 du prix normal. C'était déjà un beau cadeau, mais à 21 ans, il se retrouvait donc avec une dette importante que personne de la famille ne pouvait assumer. On aurait pu penser que c'était de l'insouciance. Pour lui, c'était un pas de foi.
Et c'est comme ça qu'on a commencé avec un terrain nu. Et tout le monde s'est dit, mais ils sont fous. Puis c'est vrai, c'était une folie. Mais avec ce qu'on avait vécu avant, on pensait que c'était possible.
Katia et Pierre se sont donc mariés. Et ils ont formé un bon tandem.
Non, mais Katia a eu une tâche extraordinaire dans c'est vraiment une perle d'avoir pu trouver une personne comme ça, qui aime beaucoup son métier, qui vraiment aime ses plantes, etc. Et pour moi, qui était voilà, je les utilisais, je les produisais pour gagner ma croûte. Ça a permis comme un bel équilibre. Mais c'était plus difficile pour elle que pour moi. Puis comme vous avez certainement beaucoup qui la connaissent ont remarqué, elle est moins bavarde que moi.
Si on pose la question à Pierre-André combien il a d'enfants, il répond 5. Ils ont eu effectivement 4 garçons, mais une petite fille, Catherine, a vu le jour après leur aîné. Ils ont pu la voir dans leurs bras seulement quelques heures. Comme il dit, si elle était née aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, elle aurait vécu.
Alors, 4 garçons et une fille. Une fille qui est entre l'aîné et le deuxième qui a vécu, qui n'a pas vécu. Elle a vécu une journée, elle est dans notre livret de famille, mais elle n'a pas vécu.
Dans notre société actuelle, la mort d'un enfant est perçue comme le plus grand des drames, dont on ne se remet jamais. Chaque parent, et moi en particulier, craint pour la vie de ses enfants. Pierre-André et Katia n'ont pas été épargnés par les épreuves. En plus de la perte de la petite Catherine, ils ont dû faire face au décès d'un autre enfant.
Alors ça, c'est une, c'est quelque chose qui est constamment présent. Peut-être pas pour la petite qui a... Si elle naissait dans ces conditions aujourd'hui, elle vivrait. Mais à l'époque, dans les conditions, il n'y avait pas de couveuse, il n'y avait pas de... C'était pas possible. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. Mais d'une autre part, d'une part, on peut dire, cette fille qui est née, elle est de nouveau près du père. Donc, on ne va pas se faire du souci pour elle. Et puis d'autre part, alors pour le deuxième, qui est décédé à 42 ans, c'est une situation qui est beaucoup plus complexe, émotionnellement beaucoup plus forte, et qui encore aujourd'hui nous habite. Ça, faut pas le nier, c'est évident. On doit prendre du recul, et puis ça se fait avec les années, ça se fait pas avec des méthodes. Et c'est vrai, c'est très difficile, mais de nouveau, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, qu'il soit béni. Mais c'est son autorité. C'est pas notre, c'est pas un dû, c'est un cadeau. Et certainement pour Cyril, il doit avoir vécu ce qu'il avait à vivre. Et peut-être qu'on lui a épargné bien des souffrances en partant maintenant. Maintenant, pour ce qui est du reste de la famille, alors évidemment, c'est de vivre avec ce parcours. Mais on voit que le Seigneur pourvoit aussi à leurs besoins. Mais ce n'est pas drôle tous les jours. Mais on n'a jamais dit que la vie serait drôle tous les jours.
Dieu a une place centrale, essentielle dans la vie de Pierre-André. C'est le fondement de sa vie. Il ne nie pas toutes ses épreuves. Ça a été très difficile, mais il n'a jamais cédé au désespoir.
Mais bien sûr, mais là je crois que le fait d'avoir une confiance que l'avenir ne nous appartient pas, le présent, on est accompagné par le Seigneur dans le présent, donne quand même un recul face à ces circonstances. Et c'est vrai que dans des circonstances difficiles, on avait chaque fois le recours à la prière. Alors évidemment, ça n'empêche pas des questions. Mais je crois que d'avoir été très actif dans les milieux d'église, pas simplement aller au culte et écouter, mais essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, etc. On pouvoir parler aussi avec mes frères, parce que mes deux frères étaient aussi engagés à faire la théologie et étaient pasteurs. On parlait beaucoup de ces questions de la foi, et les deux frères étaient très engagés. Enfin, il y en a un qui est encore très engagé. Et ça nous a donné une liaison, une sécurité, un appui. On savait où aller se ressourcer. Dans ce domaine, on a été privilégiés. Des difficultés, oui, mais on a été vraiment portés. On a reçu, c'est un cadeau, que devant un problème, on cherche la solution. On ne cherche pas à s'apitoyer, de se dire pourquoi ça arrive là. Non, c'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et je crois que c'est vraiment une attitude fondamentale qui nous est donnée. C'est pas, j'ai rien fait pour ça. J'ai pas lu des livres et passé des heures à d'introspection. C'est quelque chose que je n'aime pas.
Pierre-André est un homme pratique. Il dit de lui qu'il n'est pas bon quand il s'agit de créer des relations individuelles. Il paraît qu'il est trop direct, trop cassant. Il préfère interagir dans des groupes. Quand je lui demande s'il a été un bon père, il répond.
Alors ça, il faut demander à mes enfants. Ils m'ont dit que ça aurait pu des fois être différent. Mais d'un autre côté, vu les circonstances dans lesquelles on a commencé la famille, on a donné le meilleur de ce qu'on pouvait donner. Et ils ont beaucoup, beaucoup reçu de leur maman, qui a toujours mis une priorité à être présente quand ils rentraient de l'école, etc. Parce que ces enfants ont vécu dans une serre. Depuis qu'ils étaient bébés, sitôt qu'ils pouvaient les mettre dans une poussette, ben la poussette, elle était dans la serre. Et ils ont vu leur mère tout le temps. Après, quand ils allaient à l'école, quand ils rentraient, ma femme allait, quoi qu'il arrive, était à la maison pour les recevoir, parce qu'on habitait à côté, sur place. Et ça, c'était très précieux. Et nos enfants n'ont pas eu à faire attention à traverser la route. Ils ont pu faire des sauvages sur le terrain autour de la maison. Et ils ont vécu là beaucoup de liberté.
Pierre-André a partagé sa vie entre son métier, qui n'était pas sa passion, mais il fallait quand même gagner sa croûte, sa vie de famille, sa vie d'église, les différents comités. Il fréquentait l'église de la Fraternelle à Nyon, mais au début il n'avait pas d'engagement particulier. Il n'était probablement pas assez bien pour faire l'école du dimanche. Oh, on ne lui a pas dit en face.
Non, dans l'église, on est beaucoup plus fin que ça. On ne dit pas. On fait en sorte que.
Il faisait donc l'école du dimanche à l'église réformée. Il quittait la fraternelle à 11h pile pour être à 11h03 au temple. Il a souvent navigué entre les deux congrégations, jusqu'au jour où ceux de la fraternelle se sont dit que pour garder Pierre-André et ses compétences, enfin reconnues, il fallait lui proposer de devenir ancien, ce qu'il a fait pendant 20 ans. Pierre-André a eu 1000 expériences qui ont fait l'homme qu'il est aujourd'hui. Il aurait pu devenir pasteur, chauffeur de train ou missionnaire. Les circonstances de la vie en ont décidé autrement, et c'était aussi bien comme ça. Lorsqu'on se lance dans la vie, on ne sait pas ce qui nous attend, et heureusement, n'est-ce pas ?
On avait choisi comme verset du mariage « Mets en l'Éternel ta confiance et il agira ». C'est le psaume 37,5. Et on ne savait pas à quel point c'est une parole qui méritait d'être suivie, épousée. Et c'est vrai que tout au long de nos vies, de nos circonstances, parce qu'il y a eu souvent des fois où on ne savait pas ce qu'on allait faire le lendemain ou l'année suivante, mets en l'Éternel ta confiance et il agira. Et c'est une parole que lorsqu'on fait confiance, eh bien, on est étonné des résultats et d'où vient l'aide. Et ça, c'est impressionnant. On n'a jamais manqué, on a toujours eu ce qu'il fallait. Il y avait des fois pas grand-chose, mais il y avait ce qu'il fallait. Et c'est venu de différentes sources, de différents espaces. Et ça, c'est pas nous qui choisissons. Mets ta confiance en l'Éternel. Et il agira. Mais il faut être honnête avec le Seigneur. C'est pas la pratique. C'est pas de pratiquer des prières, de pratiquer des choses. C'est vraiment une grâce. Et ça, je crois que c'est très très important, parce qu'autrement, quand on est dans l'incertitude et le dénuement, on n'a plus les moyens de faire encore quelque chose et on ne peut que compter sur le Seigneur. Mais ça vaut la peine. C'est mieux qu'un psy.
Ah, la confiance. De nos jours, il est si difficile de faire confiance. Dans un monde où le faux domine, où le mensonge est légion, la confiance est souvent balayée. Me vient à l'esprit ce verset dans le psaume 131. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Alors c'est peut-être là la sagesse de la vieillesse, être comme un petit contre le sein de sa mère. Puissions-nous nous reposer et faire confiance. C'est le programme de toute une vie, n'est-ce pas ? Vous avez écouté « Il était une fois des sages ». À bientôt pour un prochain épisode.